BW. Droits et libertés.
Les femmes du Japon ont battu un record l'année dernière. 30 millions d'entre elles avaient un emploi en 2019, du jamais vu dans ce pays. Mais derrière cette statistique se cache une réalité moins rose. D'abord parce que seulement la moitié des Japonaises qui travaillent ont un emploi à plein temps et à durée indéterminée. Et parce qu'avoir un travail, ça ne signifie pas forcément vivre décemment. Nous nous rendrons aussi au Niger. La responsable du HCR dans le pays nous expliquera les affres du coronavirus qui a modifié le travail de l'agence onusienne avec et pour les réfugiés. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Un peu partout dans le monde, il n'est pas facile d'être une mère qui élève seule ses enfants. Pas facile d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue social aussi, à cause du regard des autres, mais aussi et surtout d'un point de vue économique, car il faut faire vivre plusieurs personnes avec un salaire qui est, dans les pays occidentaux encore aujourd'hui, inférieur de 18% en moyenne à celui des hommes. Eh bien, au Japon, la situation des mères seules est particulièrement difficile. On est ici dans le quartier de Minato, en plein Tokyo, au rez-de-chaussée d'un immeuble, une distribution de repas pour familles pauvres.
Aujourd'hui, on a du riz avec des pruneaux, des légumes et du porc frit.
Dans le quartier, des distributions sont organisées 5 soirs par semaine depuis le début de la crise liée à la Covid-19. Il y a quelques mois, 800 familles avaient besoin de cette aide alimentaire chaque semaine. Le quartier est plutôt résidentiel, mais ces derniers mois, 600 familles supplémentaires se sont inscrites pour recevoir des repas parce que le virus a plongé de nombreux Japonais dans la précarité. Hiroshi Nogami gère les distributions dans le quartier.
Ce sont les employés du secteur de la restauration ou les indépendants qui sont le plus touchés. On voit ici des gens qui n'ont plus aucun revenu.
Les habitants du quartier peuvent aussi recevoir des crédits et des aides de l'État. Kaori dit, elle, ne pas en vouloir, ne pas en avoir besoin. Dans sa main, un sac en plastique se balance avec 2 boîtes hermétiques à l'intérieur.
Avec la crise, j'ai perdu mon travail. J'ai dû en chercher un autre, mais j'ai encore dû en changer. Sauf que maintenant, il n'y a presque plus de boulot. Les entreprises hésitent à recruter. C'est vraiment pas le bon moment pour changer de travail.
À 52 ans, Kaori élève son fils toute seule, alors les distributions gratuites de repas sont les bienvenues. Sous son masque, elle affiche un sourire bienveillant, mais en fait la situation lui pèse.
L'école est restée fermée pendant des mois. Mon fils était seul à la maison. Ça l'a énormément stressé, et moi aussi par conséquent.
Et la Kaori a du mal à donner le change, elle craque, ses yeux s'emplissent de larmes, des larmes de rage aussi, dit-elle, parce qu'elle se sent abandonnée par les pouvoirs publics. Le gouvernement japonais a versé 650 euros aux femmes seules avec un enfant, mais seulement si ces femmes gagnaient moins de 13 000 euros par an. Au regard du coût de la vie au Japon, c'est une goutte dans l'océan. À titre d'indication, cette année, un appartement 3 pièces en centre-ville de Tokyo, en location, coûte près de 2 500 euros par mois de loyer. Cette autre femme, mère de 3 enfants, est aussi en difficulté. Malgré son emploi à plein temps, elle vit dans la pauvreté et elle aussi a besoin de venir chercher des repas gratuits.
Si on travaille trop, l'État nous coupe les aides. On n'y a droit que si on travaille peu. Alors dans un cas comme dans l'autre, c'est toujours difficile.
Marie Ozawa est sociologue à l'Université de Tokyo et elle s'est penchée sur la question.
Cela est dû aux rémunérations qui sont mauvaises. Quand on gagne peu, c'est vrai qu'on paye moins d'impôts, mais on continue de cotiser beaucoup à la sécurité sociale.
Au sein de l'OCDE, seules les mères célibataires turques connaîtraient une situation pire encore que les japonaises, explique Marie Ozawa, qui dit que ce sont les femmes polonaises les mieux loties. Mais selon la chercheuse, il y a aussi des raisons culturelles qui font que les femmes qui divorcent au Japon négocient mal les accords qu'elles passent avec les pères des enfants.
Il n'y a que 20 à 30% des femmes qui s'accordent avec le mari sur la pension qu'il devra verser. Ensuite, beaucoup d'hommes ne payent pas les sommes promises. Ils ne sont que 17 à 18% à s'en acquitter.
L'État japonais ne verse d'allocations que jusqu'au 15e anniversaire d'un enfant. Alors que dans le système japonais, où l'éducation est mise en avant et où les études sont donc primordiales, les coûts de l'enseignement sont élevés pendant longtemps en général. Pour compenser le fait qu'une femme est seule pour subvenir aux besoins de son enfant, et donc donner les mêmes chances de réussite à un enfant élevé par une mère célibataire, Marie Ozawa estime qu'il faudrait doubler les allocations étatiques. Inutile de vous dire que cette mesure n'est pas vraiment à l'ordre du jour.
Les hommes qui font de la politique au Japon sont vieux. Leurs femmes ne travaillent pas, elles les attendent sagement le soir à la maison. Alors nos dirigeants n'ont aucune idée de la réalité vécue par les parents japonais. Et ils prennent des décisions comme ça leur chante. Demain, on ferme les écoles, par exemple. Tant que ces gens-là seront aux manettes, rien ne pourra changer au Japon.
Une allusion à peine voilée au premier ministre conservateur Shinzo Abe. Il n'empêche que la chercheuse a un espoir, que la crise liée au coronavirus aide à faire bouger les choses. Peut-être par exemple que le télétravail va aider certaines mères célibataires à économiser au moins un peu de temps, de l'énergie et finalement de l'argent. Vous écoutez toujours Droits et Libertés. On parlait à l'instant du coronavirus qui a plongé de nombreux Japonais dans la précarité. Hélas, ce constat social est largement partagé sur tous les continents. La pandémie et les restrictions qui y sont liées ont énormément ralenti les activités de nombreux secteurs économiques et ont donc provoqué la perte de nombreux emplois. Les plus pauvres ont bien sûr été les plus touchés. C'est le cas par exemple des populations réfugiées ou déplacées. Le HCR est l'agence de l'ONU qui travaille avec ces personnes pour ces personnes. Au Niger, le coronavirus a compliqué les choses dans une zone déjà mise à mal par les violences terroristes. Pour en savoir un petit peu plus, j'ai appelé Alessandra Morelli qui dirige le bureau du HCR à Niamey et qui est encore sous le choc de l'attaque de la région de Koubré dans laquelle 6 humanitaires français et leur chauffeur nigérien ont perdu la vie.
La capacité de groupes extrémistes de frapper à l'intérieur du pays est sous les yeux de tout le monde et donc on ne peut pas rester aveugle. Ce qui s'est passé nous a brisé le cœur et le cœur est sanglant même pendant que je vous parle.
Et cette année, vous aviez déjà eu affaire à un autre obstacle, c'est le coronavirus qui a dû aussi beaucoup changer votre façon de travailler.
Absolument. Le coronavirus, je l'ai toujours défini comme l'élément amplificateur, l'élément multiplicateur de crises et des chocs qui existent déjà sur le territoire, non seulement du Niger, mais du Sahel en général. Il faut toujours parler de Sahel central, de l'Iptagourma, de ce triangle. Le Niger se trouve étouffé un peu, non, de ces situations, de ces menaces extérieures. Donc, Et le coronavirus a amplifié sans doute donc la préoccupation principale de le premier cas qui a été rapporté ici au Niger était de sauvegarder la santé de la population réfugiée et de trouver un moyen de faire comprendre comment on peut se protéger dans une situation où la distanciation sociale en général est difficile dans des conditions de vie pareilles à celles d'un réfugié. Mais je dois vous dire qu'à travers la sensibilisation de l'hygiène, à travers des programmes et des projets et laboratoires où le réfugié lui-même est devenu un acteur principal de la lutte contre le Covid, à travers la fabrication du savon, des masques, du gel, de l'eau de Javel même, et à travers une sensibilisation non-stop grâce aux caravanes et tout. Jusqu'à aujourd'hui, ici au Niger, on n'a pas eu un réfugié qui est tombé malade de Covid.
Merci beaucoup, Madame Morelli.
Ciao,
c'est la fin de ce numéro de Droits et Libertés. Merci à Catherine Hartmann pour les sons du Japon et à Alessandra Morelli du HCR au Niger. Pour balado diffuser cette émission, rendez-vous sur notre site internet dw.com/français à la rubrique Nos podcasts. À la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.
Je n'ai pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Et s'il nous fallait crever de faim ici tous ensemble, soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh yo, oh yo yo yo, citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Oh yo, oh yo yo yo, citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières.